Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Bonjour, frère Philippe.
Alors, nous sommes dans le catéchisme sur la partie qui touche à la foi. Nous avons travaillé sur ce qu'on pouvait dire de Dieu, Dieu qui prend part à l'histoire sainte, Dieu qui est vérité et amour. Nous avons évoqué les symboles, le symbole de la foi avec donc des énoncés, des articles qui disent en quel Dieu nous croyons. Il y a donc là une objectivité de la foi qui s'exprime, c'est sur cela que nous avons pu travailler. Quand on regarde le catéchisme, quand on prend les articles de 222 à 227 dans le catéchisme, avec un titre un peu trompeur d'ailleurs, « La portée de la foi en Dieu unique », on a l'impression que ça va porter sur le Dieu unique, mais c'est bien la question de la foi qui est là. La dimension de la subjectivité de la foi, le catéchisme dit « Croire en Dieu l'unique et l'aimer de tout son être a des conséquences immenses pour toute notre vie ».
Oui, de fait, on distingue dans nos grandes traditions religieuses, qu'elles soient juives ou qu'elles soient chrétiennes, la fides quoi creditur, la foi qui croit, l'acte de foi, l'acte subjectif de la foi, et la fides quae creditur, la foi à quoi l'on croit. Et c'est l'aspect objectif. Et c'est très important, cet aspect subjectif, parce que dans le fond, il y a l'adhésion personnelle, il y a l'assentiment libre à la vérité, mais en même temps avec des conséquences pratico-pratiques, car il s'agit bien non seulement de louer Dieu, d'être dans l'action de grâce, mais de reconnaître en même temps les conséquences de son acte des créateurs. Il a créé tous les hommes à son image et à sa ressemblance. Tous ont une dignité que nous partageons et qui doit être infiniment respectée. Il y a une unité du genre humain et cela nous aide aussi à nous tourner vers cette religion révélée qui conduit tous les hommes vers le ciel. C'est aussi bien usé de tout le reste, les choses créées, le fond, dans le fond, de tout ce qui a été réalisé par Dieu est bon. Dieu vit que cela a été bon. Mais bien sûr, il y aura des failles à pouvoir assumer ensemble. Nous en avons déjà parlé. Enfin, c'est faire confiance à Dieu créateur, mais aussi à Dieu provident, qui a un gouvernement divin, qui l'exerce et qui nous donne l'occasion de faire confiance, de nous livrer en quelque sorte au dessein d'amour bienveillant de Dieu. Tous ces éléments-là sont de l'ordre du subjectif, c'est-à-dire, est-ce que je les vis bien? Est-ce que ma foi personnelle est forte, non pas seulement dans l'adhésion à la vérité tout entière, mais en même temps, la confiance? C'est l'aspect de confiance de la foi qui a son rôle pour bien vivre cette foi qui nous est transmise d'une manière objective, mais qui avoir des conséquences extrêmement pratiques. Regardez, dès qu'il y a un grand événement difficile à subir, soit individuellement, soit collectivement, on voit des réactions finalement très, très diverses. Et on peut se dire, mais comment susciter cet élan d'adhésion personnelle dans des conditions difficiles à Dieu qui pourvoit et qui gouverne le monde.
Oui, finalement, tu disais vivre sa foi, et je crois que le mot vivre est important. Finalement, croire, c'est une manière de vivre, c'est une façon de se positionner dans la vie par rapport à Dieu et par rapport au monde. Enfin, les deux vont ensemble. En fait, il n'y a pas une expérience de l'homme devant Dieu sans que l'homme se positionne dans le monde où il est, sans que l'homme chasse la peur.
Oui, on n'est pas dans une espèce de dichotomie, une dualité, où il y aurait une sorte de Dieu privé que l'on rencontrerait à l'intérieur de notre âme, et puis le monde autour de nous, dans lequel il faudrait essayer de se faufiler comme on se faufilerait dans une nuit à tâtons au milieu des espaces qui sont immenses et qui nous effraient quelquefois. Et il n'y aurait pas comme un espèce de Dieu intime dans lequel on pourrait être certain et confiant, et puis un Dieu extérieur dans lequel on aurait une sorte de pusillanimité par rapport à ce monde que Dieu a créé, une peur même. Et nous savons que dans l'histoire de l'Église, il y a eu des peurs, la peur de l'an 1000, la grande peste, etc., des grands moments dans l'histoire des hommes où l'aspect de confiance subjective s'est trouvé quelque peu réduit, alors que, par ailleurs, les exactitudes au niveau de la foi objective demeuraient. Il n'y avait pas particulièrement d'hérésie à ce moment-là. Il y en a eu quelques-unes, mais disons qu'elles n'étaient pas aussi tragiques qu'à d'autres moments de l'histoire de l'Église. Et donc c'est frappant de voir qu'il y a ces deux poumons qui, normalement, doivent être vécus en même temps, comme une unité d'être. Quand je ne peux pas dire à mon poumon droit « arrête de respirer » pendant que mon poumon gauche respire, sauf évidemment maladie qui ferait que l'un s'arrête. Mais nous avons à respirer à la fois dans cette confiance fiduciale d'une foi qui fait confiance à Dieu qui pourvoit, et d'autre part, une foi qui adhère à ce que Dieu nous a révélé de lui-même et de ce qu'il fait et réalise dans la création et dans la recréation à travers l'Église qu'il a donnée comme instrument, comme corps de cette recréation. Parce que finalement, qu'est-ce que l'Église est au milieu de ce monde ? Elle est le salut universel du salut. Et donc, elle est le moyen du salut universel. Et donc, si Dieu nous la donne, eh bien, nous devons sans cesse la considérer et prendre soin d'elle pour que nous puissions y être à notre place et aider les autres aussi à s'y maintenir, comme dans un corps, il y a des liens et des ligaments, dit saint Paul, et chacun a sa place. Si un ligament saute, ça va tirer sur le reste, et on comprend très bien l'importance de cette cohésion dans le corps du Christ.
En fait, croire, c'est entrer dans la docilité, j'ai l'impression. Alors, il faut bien entendre, le mot docilité, je pense que certains n'aiment pas beaucoup ce mot-là, en se disant, voilà, une espèce de soumission à la pensée de quelqu'un, ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas tellement ça dont il s'agit. Il s'agit, si je comprends bien le mot docilité, c'est celui qui se laisse enseigner, oui. Celui qui trouve plaisir dans l'enseignement qu'il reçoit. C'est celui qui, par rapport à Dieu, entre dans la pédagogie de Dieu et se réjouit même que Dieu est une pédagogie. Je pense. Et du coup, ça me fait penser que croire en Dieu, ça va avec craindre Dieu. Encore un mot qui n'est pas trop aimé, mais craindre Dieu, c'est un acte que l'homme décide de poser, donc s'en remettant à celui dont il sait qu'il reçoit beaucoup. Donc cette attitude de respect est une attitude de confiance profonde, à la différence d'avoir peur de l'animal sauvage qui nous vient dessus. Ça, c'est juste instinctif, croire en Dieu. Et craindre Dieu, finalement, c'est une démarche que je pose. Je façonne ma vie, j'entre dans une pédagogie qui me permet de trouver la relation qui va être ajustée à Dieu et qui va me permettre de m'ajuster au monde. Est-ce que...
Oui, nous avons, parce que nous avons des sentiments, les sentiments sont souvent bigarrés, c'est-à-dire contrastés. Je peux avoir la crainte de Dieu, la crainte filiale de Dieu, et puis à côté, je peux avoir la crainte servile de Dieu. Vous voyez, la peur du châtiment, la peur des fins dernières, et tous ces éléments-là qui doivent céder un beau jour à l'élan de la vraie crainte, la crainte filiale qui fait confiance à l'amour, qui avance par amour. Eh bien, je dirais de la même manière, dans la docilité, on peut tomber, hélas, dans une attitude de manipulation vis-à-vis d'autrui, de rentrer dans une mauvaise soumission. On devient à ce moment-là manipulable et on n'est plus docile parce que celui qui est docile garde son esprit critique. Et souvenons-nous combien les débuts de l'Église ont été cohérents par rapport à cette docilité vis-à-vis de Dieu. À plusieurs reprises, dans les Actes des Apôtres, la bouche de Pierre ou des premiers disciples de Jésus ont rappelé qu'il valait mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ça, c'est un signe très net de cette véritable docilité à Dieu sans tomber dans une sorte de manipulation par des autorités qui n'avaient plus raison d'être. et qui fait que, par ailleurs, on garde en ligne de compte que nous devons une obéissance, bien sûr, aux autorités civiles, mais toujours dans la lumière de Dieu et toujours avec notre conscience, avec donc une certaine capacité réflexive, critique, à la limite, pour évaluer si c'est conforme ou non à l'Évangile.
En tout cas, tout ça est très, très concret, cette idée de croire en Dieu. Je reprends, tu les as dit au début, les articles 223, 227 qui disent concrètement ce que c'est. Mais effectivement, connaître la grandeur et la majesté de Dieu, dire que, accepter que Dieu est premier servi parce qu'il est, il est celui dont, dont on se reçoit. Vivre en action de grâce. Je pense à un jeune homme qui me disait... Il a passé un examen qui s'est bien passé. Il dit « Je vais rendre grâce ». Je trouve que c'est exactement ça. Ce n'est pas étranger à Dieu, ce que je vis, ce que je réussis, quand je suis persévérant. Connaître l'unité, la vraie dignité de tous les hommes, parce que tous ils sont faits à l'image et la ressemblance de Dieu, c'est quelque chose d'assez important. La relation qu'on a à l'homme, sa dignité, la façon dont on le considère, bien user des choses créées, c'est un rapport, on pense à l'écologie aujourd'hui, la relation qu'on a à ce monde, à cette création, mais reconnaître qu'on est capable d'avoir de l'intelligence pour vivre et user des biens qui nous sont donnés. Bon, et là, on l'a développé, hein, faire confiance à Dieu en toutes circonstances. D'ailleurs, j'ai envie de lire cette prière de Sainte Thérèse de Jésus, Thérèse d'Avila. Que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie, tout passe, Dieu ne change pas, la patience obtient tout, celui qui a Dieu ne manque de rien, Dieu seul suffit. C'est très connu, mais ça mérite d'être entendu.
Exactement.